La main verte d'Alain Baraton. Bonjour mon cher Alain.
Elle ne danse pas beaucoup. Bonjour Eric, bonjour Karine, bonjour à tous.
Vous ne dansez pas Alain.
Jamais.
Jamais.
Jamais. Même avec les militaires, jamais.
Vous savez que vous avez le droit de changer.
Oui, non mais je ne sais pas danser. Je me trouve ridicule quand je danse. Alors, je m'abstiens.
Oubliez tout ça.
Là, vous n'êtes pas ridicule. Ce sont pour vos conseils et votre vision de la nature. On parle de sauge ce matin. Il existe une très grande diversité de sauge.
Il en a en effet été recensé près de 900 espèces et donc des milliers de variétés et cultivars. Les sauges sont présentes sous toutes les formes ou presque, de toutes les couleurs. Elles peuvent être annuelles ou vivaces, petites voire minuscules, ou de la grandeur d'un arbuste.
Et donc les sauges étaient autrefois cultivées pour leurs vertus bienfaisantes.
C'est si vrai qu'un dicton prétend que celui qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de consulter un médecin. À Versailles, Louis XIV le savait et il buvait tous les jours de la sauge officinale pour lutter contre le mal de tête. Il aimait tellement ce breuvage qu'il en offrait à tous ses invités. Autant vous dire que toute l'aristocratie en faisait de même.
Et la plante était connue bien avant pour ses bienfaits.
Les Mayas, les Aztèques, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, puis les Gaulois, tous en consommaient. Les Chinois, eux aussi, aimaient tellement la sauge qu'ils échangeaient des feuilles de thé contre des feuilles de sauge. Alors, il n'est pas étonnant que le nom botanique de la sauge soit salvia, du latin salvo, ce qui signifie sauver. Alors, pour ceux qui aiment les plantes et les sauges en particulier, il est un rendez-vous incontournable ce week-end. Fleur en scène au Mureau dans les Yvelines. Et il est prévu pour cette 18e édition des conférences, vous vous en doutez, sur les sauges. Et c'est rare. Le baptême d'une nouvelle variété créée par Manuel Rodriguez en l'honneur de cette manifestation. Une nouvelle sauge va donc s'appeler Fleur en scène et je trouve ça très bien.
Alain Baraton, Michel a besoin de vos conseils parce que Michel a un tout petit jardin, victime depuis deux ans, depuis deux étés, victime des otiorrinques qui se régalent de quelques plantes. Comment faire pour s'en débarrasser?
Qu'est-ce que c'est que ça d'abord?
Alors on en parle souvent des otiorinques, je vous passerai l'orthographe, il y a deux T quelque part,
il y a un
Y,
un R, un H.
C'est assez compliqué tout ça. Les otiorinques, ce sont des petits scarabées noirs qui pondent des œufs dans la terre et qui vivent la nuit et qui boulottent. Alors, comment sait-on que ce sont des otiorinques qui ont mangé vos plantes? C'est simple, vos feuilles se transforment en dentelles. On voit des magnifiques feuilles, c'est devenu de la dentelle. Ce sont donc des otiorinques. Lutter contre la bestiole n'est pas facile, elle est nocturne, et vu qu'elle préfère être discrète, elle est généralement sous les feuilles. Alors, pour attraper les otiorinques, je dis bien les attraper parce que il n'existe pas de produit à mettre aujourd'hui. On arrête de polluer, on arrête de détruire. Il y a assez de problèmes comme ça. Eh bien, on va dans son jardin quand il est de modeste dimension, et je ne plaisante pas, avec une lampe électrique tout simplement. Et on les voit, ils sont là, ils se baladent et ils boulottent. Et on les attrape gentiment, on les met dans une boîte et ensuite on les met où on veut. Par contre, n'oubliez pas qu'il y a dans la terre les larves et que elles aussi, elles font quantité de dégâts. N'hésitez pas de temps en temps à donner un petit coup de griffe. En vous donnant un petit coup de griffe, ça mettra les larves en contact avec les oiseaux. Vous savez combien haut j'aime les oiseaux et qu'il faut tout faire pour les protéger. C'est donc une occasion de vous débarrasser des larves d'otiorinque et en même temps d'aider la nature.
Anne-Sophie a planté deux érables du Japon sur son balcon et depuis un peu de temps, des taches marron apparaissent sur les feuilles. Des feuilles qui tombent d'ailleurs. Comment sauver cet érable du Japon?
On va tout de suite calmer la situation. Le nombre d'auditeurs qui vont nous écrire en disant « j'ai des feuilles qui rougissent, qui jaunissent, qui verdissent, qui ont des taches », c'est normal. Nous arrivons en automne, nous avons eu un été particulièrement humide, du moins au nord de la Loire, donc il est normal que les feuilles maintenant soient attaquées par des champignons. L'automne arrive, ce qui veut dire que l'immense majorité de nos végétaux sont caduques, les feuilles vont tomber. Donc laissons faire la nature, j'adore cette phrase, hein, on va ramasser les feuilles tranquillement, on va les mettre sur le tas de compost, et il sera toujours temps au redémarrage printanier de voir ce qu'il convient de faire. Ce qui est sûr, c'est que vouloir traiter un végétal qui a des champignons sur des feuilles quand celles-ci vont tomber n'a aucun sens.
Mais ça veut dire quand même que quand les feuilles vont revenir, les champignons auront disparu, totalement disparu, c'est sûr. Parce que c'est ça la question aussi.
Alors, tout dépend des champignons. Vous avez raison, certains champignons peuvent rester sur l'écorce ou dans le compost et réinfecter le végétal l'année suivante. Tout dépend des distances de plantation, d'où l'importance de toujours respecter les distances, et tout dépend du printemps suivant. Si notre printemps 2022 est un printemps sec, il mettra un terme aux champignons. Si par contre le printemps est humide, alors on peut craindre le pire et une apparition des champignons beaucoup plus hâtivement.
Frédéric a plusieurs chênes attaqués par des bestioles. Les branches tombent, elles sont devenues légères, si légères qu'elles s'effritent sous mes doigts. Certaines font au moins 5 ou 6 cm de diamètre. On parle de quoi ?
On parle de scolytes, et c'est ça le problème. Des scolytes qui d'habitude s'attaquent aux arbres morts, je dis bien morts, mais de temps en temps ils manquent de nourriture, et quand ils n'ont plus de quoi manger, ils s'attaquent aux arbres vivants. Que faire ? Là encore, ce n'est pas évident, d'où l'intérêt de bien gérer les forêts et de ne pas supprimer systématiquement les arbres à terre, les morceaux de bois. Il est important de laisser les scolytes se nourrir naturellement pour les détourner des arbres sains.
Allez, on termine avec quoi ce matin ?
Un livre ? On y retourne. Non, je retourne à Fleur-en-Seine parce que j'aime cette manifestation. C'est dans le parc de Lauzeret, je voulais être précis, c'est sur les bords de Seine, c'est merveilleux. Il y aura 70 conférenciers, conférenciers exposants, pardonnez-moi. Voilà, c'est gratuit. Donc c'est Fleur-en-Seine, au Mureau, dans les Yvelines, en bord de Seine. Il va faire beau, c'est merveilleux.
Il va faire beau, vous avancez
il
un
va
peu.
Faire
ouais,
beau.
Ouais, ouais, pas
partout,
sûr, tu sais, c'est... Ouais,
il
ouais,
va faire beau.
Vous faites de la retape, là. Merci Alain Baraton. Et à demain, il est 7h50.